Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet. Alors, pour être honnête, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu comme sujet pour recommencer mes épisodes hebdomadaires. Mais comme le sujet que je vais aborder aujourd'hui est malheureusement encore un sujet récurrent dans ma vie et d'actualité, j'ai pas pu m'empêcher de déblatérer sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va parler des situationships, ou soit le mal de notre époque finalement, et de nos générations, ou alors vraiment c'est ma malédiction à moi, mais je crois qu'on est quand même plusieurs à connaître ce sujet-là. Pour être honnête, je sais pas trop si j'espère faire ma propre thérapie en faisant cet épisode, ou si j'espère plutôt recevoir des témoignages qui me donneront un peu de l'espoir, ou en tout cas, à défaut de me donner de l'espoir, qui feront que je me sentirai moins seule, que je me sentirai moins seule dans cette galère finalement. Mais bon, l'un dans l'autre, j'espère juste que ça m'apportera quelque chose et que ça pourra apporter aussi quelque chose aux personnes qui l'écouteront, que ce soit par mon expérience ou juste par le fait de passer un bon moment en entendant quelqu'un qui galère. Peut-être que ça vous donnera juste aussi la vision positive de votre propre vie amoureuse et que ça vous permettra de vous rendre compte que vous avez plus de chance que moi et ce serait déjà très bien. Donc tout d'abord, j'ai décidé de me la jouer un peu Larousse parce que je me suis rendu compte en parlant un peu autour de moi qu'en fait ce terme n'était pas forcément connu de toutes et de tous. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant de revoir un peu ce qu'on entend par ce terme-là de situationship qui est un terme plutôt récent hein, du coup. Et quand on cherche sur internet, la première définition qui tombe c'est contraction de l'anglais relationship, donc la relation amoureuse, et situation, situation potentiellement problématique, oui effectivement potentiellement problématique, on est bien d'accord. Donc la situationship, c'est donc la relation qui n'entre dans aucune case. Je n'aurais pas mieux résumé, c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'on est sur deux personnes qui se fréquentent de façon intime et plus ou moins régulière, qui partagent des choses, c'est-à-dire qu'on est au-delà du plan cul, clairement. On est au-delà de juste un sex friend ou voilà, quelque chose de vraiment peu suivi. Mais on n'est pas non plus dans une vraie relation. On ne partage pas autant de choses, on n'a surtout pas d'étiquette, pas d'engagement, etc., etc. Et ce phénomène-là, il est apparu plutôt récemment de ce que je peux comprendre de mes recherches. Et ça ne m'étonne pas trop parce qu'il a l'air extrêmement lié avec la fameuse peur de l'engagement qui caractérise que trop bien notre génération, n'est-ce pas? Parce que il est vrai que nous sommes dans une génération qui a quand même beaucoup de mal avec l'engagement. Et je pense qu'on a tous du mal avec l'engagement dans notre génération à différents niveaux. Par exemple, au niveau du travail, les générations avant nous avaient une facilité à s'engager pour une entreprise dans laquelle ils restent toute leur vie finalement, où ils font toute leur carrière. Nous, c'est quelque chose qu'on connaît très peu. De la même manière, quand il rencontrait quelqu'un avec qui ça se passait bien, avec qui il s'entendait bien, avec qui il partageait les mêmes valeurs, les mêmes envies, ça suffisait pour décider de faire un bout de chemin ensemble, quoi, finalement. Alors qu'aujourd'hui, on se pose mille questions. Est-ce que vraiment je suis prêt? Est-ce que vraiment je ressens assez de choses? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce que je suis prêt à m'engager, etc. Question qui, j'ai l'impression en tout cas, ne se posait pas avant et où on se laissait finalement, enfin j'ai l'impression en tout cas que sur ce sujet-là, les générations précédentes se laissaient vivre en se prenant un petit peu moins la tête finalement, ou alors en suivant un schéma préétabli sans réfléchir plus que ça, et je pense que la vérité est au milieu en tout cas, mais toujours est-il que voilà, c'est quelque chose d'assez récent qui vient avec notre génération, super, on a tout gagné. Et en cherchant sur internet, j'ai aussi vu beaucoup de définitions qui parlent de relations sans prise de tête, donc qui voudrait dire que la situationship induit de ne pas avoir de prise de tête. J'avoue que ça m'a fait un peu rire, rire jaune, hein, soyons honnêtes, parce qu'en général, il n'y en a qu'un seul hein, qui ne se prend pas la tête dans ces relations-là, mais l'autre, croyez-moi que l'autre, il se prend la tête. Parce que, en fait, si on est honnête, en général, je dis bien en général, hein, je veux dire, je ne détiens aucune vérité ici, et surtout, je n'ai pas toute l'expérience du monde, ni personnellement, ni autour de moi, donc il y a forcément des contre-exemples à ce que je dis, mais en général, cette situation-là, elle ne va bien aux deux personnes qu'au début. Et ça dure pas très longtemps, généralement. C'est-à-dire que très vite, l'un des deux va vouloir plus et ne va pas oser le dire, de peur d'être rejeté par l'autre et de perdre l'autre aussi. Résultat, le côté sans prise de tête, il disparaît très vite. D'autant que, rappelons quand même que l'idée de base, c'est d'avoir que les bons côtés d'une relation de couple. Mais finalement, dans toutes les expériences que j'ai eues en tout cas, on se retrouve à avoir justement les mauvais côtés du couple, c'est-à-dire les embrouilles, parce qu'il y en a un qui est pas heureux et pas comblé dans cette relation-là, et finalement pas les avantages de la relation, puisqu'il n'y a pas de vrai partage et qu'il n'y a pas de vraie relation. Donc on se retrouve à avoir finalement plus que les mauvais côtés du couple, alors que c'était l'exact opposé qui était l'idée de base. Donc ça perd très vite de son sens et de son intérêt premier surtout. Et en plus, honnêtement, ça devient quand même, dans ce cas-là, très très vite malsain. Donc forcément, on en arrive à la deuxième partie du podcast, qui est la question qu'on se pose forcément à ce moment-là. C'est pourquoi et comment on se retrouve dans ces situationships-là. Et je ne vais pas vous apporter de réponse incroyable, je préfère vous le dire, parce que moi-même, je me pose cette question, dans le sens où, avant la dernière relation comme ça que j'ai eue très récente, je m'étais promis, mais vraiment promis, de ne plus jamais tomber là-dedans. Et en fait, bah, ça vous prend par surprise, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, en entrant dans cette dernière relation, je me suis dit, ok, je veux pas non plus aller trop vite, donc je laisse, enfin, je laisse le temps, j'allais dire le temps au temps, je déteste cette expression, mais vous avez saisi l'idée. Mais je veux pas non plus laisser trop de temps pour que s'installe cette espèce de non-dit, de non-communication, etc. Donc j'ai vraiment essayé voilà, de dire ce que je voulais, d'amener cette relation vers là où je voulais qu'elle aille de manière plus ou moins subtile. C'est un raté, visiblement, mais voilà. Et toujours est-il que du coup, je me suis retrouvée à nouveau dans cette situation-là, à ne pas arriver à partir, etc. Alors que je m'étais vraiment promis à moi-même que ça ne m'arriverait plus jamais. Et forcément, j'en arrive à me demander, mais pourquoi et comment ça se fait finalement que j'en arrive là? Et je pense que cette question, elle peut potentiellement intéresser plusieurs personnes, parce qu'honnêtement, j'ai quand même l'impression que toutes les personnes de nos générations, on s'est tous plus ou moins retrouvés au moins une fois dans ce schéma. Et je pense qu'il y a plusieurs explications et étapes au fait qu'on peut potentiellement tous se retrouver dans une relation comme ça qui, au final, ne nous convient pas. Je sais que moi je suis passée par il y a plusieurs étapes entre guillemets, il y a eu plusieurs raisons dans ma vie qui ont fait que je me suis retrouvée dans ces situations-là. La première, bah, c'est que c'était moi qui voulais pas m'engager, auquel cas c'était moi la personne qui restait dans le flou, etc. Il y a aussi le fait que, ben, au départ, parce que moi c'est quelque chose que mes amis me disent souvent, oui, mais tu attires les gens, tu es attiré par les personnes comme ça, émotionnellement indisponibles, qui du coup ne s'engageront pas avec toi et te feront être dans ces situationships-là. Je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas écrit sur la tête des personnes concernées, donc je ne peux pas le savoir en fait avant. Donc il y a aussi cet aspect-là, tout simplement, de rentrer dans une relation avec quelqu'un, c'est toujours un coup de poker finalement, et on ne peut pas réellement savoir au départ ce qui va advenir de la relation avec cette personne. Il y a aussi le fait d'être en dépendance affective complète, d'avoir absolument besoin de quelqu'un, de ne pas réussir à être seule. Et du coup, se persuader que cette relation-là est OK, que cette relation-là nous convient, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et cet aspect-là, il est assez dur à déconstruire parce que ça demande d'être vulnérable et de revenir un petit peu sur son ego, de pouvoir assumer de soi à soi et de soi à l'autre qu'en réalité, on veut plus et qu'on aimerait que cette relation évolue différemment. Et puis, il y a aussi le cas où forcément, on a exprimer ce qu'on voulait, on est en phase avec nous-mêmes, etc. Mais on n'a pas forcément envie d'être seul, on est attaché à la personne qu'on a en face, donc c'est compliqué de partir. Et tous ces éléments-là peuvent faire qu'à un moment donné, même quand on sait ce qu'on veut et qu'on sait où on veut aller, tout simplement, on se retrouve dans une situationship et on est malheureux. Voilà. Et je pense que là, les raisons que j'ai énumérées sont la majorité des raisons qui font que beaucoup de personnes se retrouvent dans ces relations-là alors que ce n'est pas ce qu'elles veulent. Mais il y a aussi une autre question qui se pose, c'est finalement comment ça se fait que on débute une relation comme ça, qui a l'air au départ d'être saine et d'aller dans le bon sens, et qui finalement n'aboutit pas. Alors évidemment, il y a un des deux protagonistes qui, en général, a peur de l'engagement, n'a pas envie de s'engager, etc. Mais je suis un peu de la team où je pense que tout le monde a envie de s'engager et que tout le monde a peur, entre guillemets, de l'engagement, mais personne n'a assez peur pour ne pas s'engager quand il tombe sur une personne qui fait vraiment la différence. Donc pour moi, quelqu'un qui dit qu'il n'a juste pas envie de s'engager ou qu'il ne peut pas s'engager, c'est pas vraiment vrai. Il y a du vrai, mais je veux dire, si vous étiez ou j'étais la bonne personne pour ça, la personne se serait engagée en fait tout simplement. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que, quand c'est récurrent, comme ça l'est dans ma vie, qu'est-ce qui fait que enfin, les personnes ne veulent pas s'engager avec moi? Je finis par me dire que forcément, c'est moi le problème. Alors, je sais que quand je dis ça autour de moi, les gens me disent, mais pas du tout, ce n'est pas toi, ils ne savent pas ce qu'ils perdent, etc. Les gens qui me disent ça sont des gens qui m'aiment, hein, inconditionnellement. Donc, par définition, il manque un petit peu de recul, en fait, et d'objectivité sur ma personne. Mais toujours est-il que, il faut bien admettre que le seul dénominateur commun à toutes ces situationships que j'ai eues dans ma vie, c'est moi. Voilà. Donc je pense quand même que le problème vient de moi. À un moment donné, il faut être honnête, il y a forcément un truc que je fais ou que je dis ou que je dégage qui amène à me retrouver dans ce type de relation en fait. Et là vraiment, je vais poser des questions, c'est-à-dire que vraiment, si quelqu'un a un retour à me faire, n'hésitez pas parce que moi, je n'ai pas la réponse. Voilà. Normalement, je fais des podcasts où je trouve des réponses aux questions que je me pose par mes recherches, etc. Là, je ne l'ai pas. Clairement, je n'ai pas la réponse à la question que je vais poser. Mais je me demande effectivement si c'est quelque chose qui est lié à un comportement. Typiquement, je sais que autour de moi, j'ai plusieurs écoles, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais avoir des personnes qui vont me dire que dans ce genre de cas, il faut absolument la jouer inaccessible, la jouer détachée. Que l'autre personne ait l'impression qu'elle peut vous perdre et que du coup elle se rende compte qu'elle peut potentiellement être attachée à vous et avoir un déclic pour s'engager avec vous. Et je vais avoir l'autre école aussi qui va me dire qu'il ne faut jamais jouer de jeu, toujours être honnête, que de toute façon si la personne commence à s'attacher à vous parce que vous jouez un jeu, en fait elle s'attachera pas vraiment à vous et du coup ça n'a plus vraiment de sens. Et que ces personnes qui ont peur de l'engagement ont au contraire besoin d'être rassurées, d'être limite coucouné et d'avoir cette sécurité-là et que du coup au contraire il faut être très rassurant, très présent, etc. J'ai l'impression de te faire ni l'un ni l'autre. Moi je vraiment j'ai pas trop de plan d'action dans ces moments-là. Je fais un peu au feeling. Enfin, honnêtement j'ai eu des relations comme ça où je l'ai joué détaché, j'ai fait semblant que ça m'allait, que j'étais hyper ok avec ce qui se passait alors qu'en réalité pas du tout. Mais sur la dernière par exemple je n'ai pas du tout joué comme ça. J'ai été très honnête depuis le départ et j'ai vraiment joué à aucun jeu, mais vraiment aucun, et je me dis que j'aurais peut-être dû et que ça aurait peut-être changé la donne. Mais en même temps, il est difficile de regretter d'avoir été vraiment soi-même, donc j'ai pas vraiment de regrets, mais ce que je me demande en tout cas, c'est à quel point ça aurait pu être différent, et est-ce que vraiment c'est ça qui marche? Est-ce que vraiment c'est ça qu'il faut faire? Je ne sais pas, mais si quelqu'un a une réponse et a des expériences à partager, vraiment n'hésitez pas. En tout cas, à défaut d'avoir une réponse à cette question, j'ai une astuce pour réussir à partir. Voilà. Parce que comme ça, on pourrait se dire, toutes les personnes qui vont écouter ça et qui ne sont pas dans un cas comme ça aujourd'hui peuvent se dire, bah, c'est simple en fait, tu parles et puis si les réponses te vont pas, tu pars. Oui, sur le papier, oui bien sûr, mais dans les faits, c'est pas si simple. Parce que, encore une fois, on n'a pas forcément envie d'être seul. Les autres options qui se proposent à nous à ce moment-là ne sont peut-être pas forcément meilleures, voire pires, ou alors ne nous intéressent pas. Et puis encore une fois, en général, c'est quand même des personnes avec qui on a partagé du temps, avec qui nous, on avait potentiellement envie de s'engager. Ça veut dire que la personne nous plaît quand même, au passage, qu'on a sûrement commencé à développer des sentiments pour cette personne-là. Et à partir de là, bah, ça commence à devenir très compliqué de fermer la porte soi-même quand on a toujours un peu cet espoir que les choses changent. Et je l'ai souvent dit, mais l'espoir, c'est un peu, je trouve, le moteur et en même temps le détracteur complet de nos vies. Parce que heureusement qu'on a toujours de l'espoir pour plein de choses et c'est ce qui nous permet d'avancer tous les jours. Et en même temps, cet espoir, il nous fait prendre des décisions qui sont très mauvaises parfois pour nous. Et prendre la décision de partir d'une relation comme celle d'une situationship quand on n'en a pas envie et qu'au fond de nous, on a toujours un petit espoir qu'à un moment donné, les choses changent, bah, c'est très compliqué en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser sur le papier comme ça. Et fatalement, pour cette raison-là, moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je n'avais aucun moyen de sortie de ces relations, c'est-à-dire que j'attendais patiemment de me faire jeter. Voilà. Donc très joyeux, très self-love, tout ça, vraiment top. D'ailleurs, spoiler, dans plusieurs de ces situationships-là, je me suis fait jeter pour une autre avec laquelle le mec s'engageait en me remerciant limite de les avoir débloqués parce que j'ai toujours été celle d'avant la bonne, entre guillemets. J'ai l'impression d'avoir la malédiction d'être la meuf avant la bonne et qui est toujours un peu différente des autres. On me dit toujours que je suis un peu différente des autres, etc. Pour être honnête, à ce stade de ma vie, je commence à avoir une belle petite collection de super beaux messages de mecs qui me disent à quel point je suis géniale, qui énumèrent toutes mes qualités. Toutes vraies au demeurant. Non, c'est faux en plus, il y a des trucs, c'est pas vrai du tout. Bref, des très beaux messages qui me disent que vraiment je suis quelqu'un d'exceptionnel et que c'est eux le problème, etc. Et des fois, limite, je me tâte à imprimer ces messages et à les foutre sur mon miroir de salle de bain pour booster mon ego. Après, bon, je me rappelle quand même qu'on parle de mecs qui n'ont pas voulu de moi. Ça me calme. Du coup, en général, ça me calme. Mais tout ça pour dire que vraiment, j'ai vraiment la sensation d'avoir une malédiction, quoi. Je me dis, soit je tombe que sur des menteurs qui me disent que je suis géniale, alors qu'en fait, au fond, ils sont en mode, elle est éclatée au sol, la zouze, mais on lui fait croire que parce qu'on peut décemment pas lui dire qu'elle est nulle, quoi. Ou alors, vraiment, j'ai une malédiction. Voilà, je sais pas, en fait, c'est l'un ou l'autre, c'est binaire. C'est faux, ça n'est pas binaire. J'imagine qu'il y a d'autres options, mais vraiment, je sais pas, je comprends pas. Et en fait, très souvent dans ces relations-là, les personnes en face de moi m'ont dit que je les avais aidées à parvenir à se projeter à nouveau, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est super. Non, plus sérieusement, je suis en train de me rendre compte que je me livre vraiment beaucoup dans ce podcast et c'est pas hyper flatteur pour moi. Et en plus, je sais qu'il est possible que certaines oreilles passent par là. Et je me dis que je suis un peu en train de marquer des buts contre mon camp là, avec tout ce que je dis. Mais bon, c'est le jeu et autant aller au bout des choses. Donc, continuons maintenant que je suis lancée. Donc, revenons à nos moutons. Je parle vraiment comme une personne de 70 ans, c'est trop grave. Mais revenons donc au fait de comment on peut se sortir de ces relations-là. Bon, bien sûr, ne pas suivre l'exemple que je vous donnais d'attendre qu'on vous jette. Vraiment, je ne le conseille pas. J'ai testé l'expérience et c'est un 0 sur 10. Donc, je ne le conseille pas et je pense qu'il vaut mieux faire autre chose. Et comme je disais, je sais qu'il est super dur de partir quand l'autre nous donne toujours un peu, qu'il nous retient toujours un peu. Et je sais que c'est hyper galère, vraiment. Mais je crois que j'ai trouvé une solution qui est, somme toute, très efficace, qui consiste à se piéger soi-même. Voilà, il faut se tendre un piège, donc je m'explique. En gros, il faut engager des conversations sur votre situationship et pousser l'autre personne dans ses retranchements. Des fois, vraiment, c'est compliqué parce qu'en général, c'est des gens qui n'aiment pas communiquer et qui n'aiment pas ces conversations, donc c'est une galère. Mais vraiment insister, il faut être lourde, en fait voilà, il faut être lourde, jusqu'à obtenir vraiment la raison du manque d'engagement de la personne et du manque d'implication de la personne dans cette relation-là. Et généralement, quasi à coup sûr, vous allez finir par être confronté à un discours qui ne vous laissera pas le choix que de partir, c'est-à-dire que la personne, elle va vous dire des choses qui vont clairement vous faire comprendre qu'en fait, elle ne tient pas vraiment à vous, quoi. Et du coup, là, ben là, vous allez vous dire qu'il faut mettre les voiles, quoi. Parce que clairement, il y a un moment où l'ego et tout ça, vous ne pouvez pas rester. Bon, je dis ça, mais en fait, pour être honnête, il fut un temps où je restais malgré tout. Vraiment, l'amour-propre, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps ici, parce que ce n'était pas acquis du tout. Mais c'était il y a longtemps. Et maintenant, je me piège et je pars. Je mets un peu de temps à le faire, mais j'arrive à le faire de plus en plus vite. Et je pense que c'est parce que, pour être honnête, ces relations finissent par me lasser de plus en plus vite parce que forcément elles finissent quand même par manquer d'intérêt, même quand la personne en face a plein de qualités, que vous l'aimez beaucoup, etc. La relation elle ressemble à pas grand-chose finalement, donc au bout d'un moment ça manque de piment quoi, ça manque d'intérêt en fait tout simplement, je me répète, mais c'est vraiment le bon mot. Et je pense que quand vous commencez à sentir que vous vous lassez un peu, que vous ne voyez plus trop l'intérêt, que vous avez juste de la dépendance affective, mais qu'en fait la relation en elle-même, elle ne vous excite pas tant que ça, parce qu'elle n'est pas excitante en fait, tout simplement, je pense que c'est vraiment le bon moment pour se piéger, comme je vous l'ai dit, et partir. Après, bien sûr, il est normal que ça prenne du temps, mais honnêtement, pour l'avoir vécu, on finit toujours par s'ennuyer dans ces relations-là, on finit toujours par être lasse, en fait, littéralement. Et c'est vrai que à force, ce genre de relation perd de sa saveur. Et finalement, même la personne en face perd de sa saveur aussi. On pouvait la trouver géniale au début, mais elle nous donne si peu, elle est si peu impliquée et c'est tellement flou qu'à force, on perd un peu ce goût-là. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut savoir mettre les voiles, encore une fois, et partir, tout simplement. Je vous avoue que cet épisode, je l'ai construit de manière assez spontanée et on arrive maintenant à la partie où j'aimerais conclure cet épisode. Et franchement, bah, j'ai pas trop de conclusion. Enfin, pas de bonne ou de positive, en tout cas. Du coup, je vais éviter de conclure cet épisode en sortant des trucs du genre que c'est juste une question de chance et que, bah voilà, il y en a qui n'ont pas de chance, etc. Même si j'avoue que des fois j'ai juste envie de m'apitoyer sur mon sort et de me dire que bah voilà, j'ai juste une malédiction et que j'y suis pour rien et que c'est pas de ma faute et que j'ai juste pas de chance. Mais on va pas faire ça parce que non seulement ce serait déprimant et probablement faux en plus, mais en plus pour être honnête, je sais que je vais me faire engueuler par mes amis qui vont écouter cet épisode et qui sont vraiment pas fans de cette conclusion défaitiste et qui n'aiment pas du tout quand je dis ça. Du coup, à la place, je me suis dit que j'allais vous proposer plutôt une version misandre et vous dire en conclusion que c'est les mecs qui sont tous nuls. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais quand même, dans beaucoup, beaucoup de cas, les situationships sont dans les relations hétéros. Encore une fois, je parle de ce que je connais, mais dans les relations hétéros, sont l'idée par un garçon qui ne veut pas s'engager et une fille qui crève d'envie de s'engager et qui n'a pas ce qu'elle veut et qui se tait dans son coin. Voilà. Donc, du coup, je conclus en disant que c'est juste que les mecs sont tous nuls et qu'ils sont tous trop bêtes. Et non, je vais pas dire ça en vrai parce que c'est pas vrai non plus, mais c'est tentant parfois quand même. Donc je vais me recentrer et je vais essayer de faire parler plutôt le côté de moi le plus intelligent, enfin le côté de moi qui essaie d'être intelligent en tout cas, dans ces réflexions. Et en ça, j'aimerais juste dire à ceux ou celles qui m'écoutent qui sont dans ce cas-là, dans ce genre de relation-là, et potentiellement me le rappeler à moi-même d'ailleurs, que je pense finalement que la vraie question à se poser, c'est pas forcément pourquoi on ne leur plaît pas assez, mais plutôt pourquoi nous, on ne s'aime pas assez pour partir dès que c'est nécessaire et pourquoi on s'accroche comme ça à des profils auxquels on s'accrocherait en plus sûrement pas s'ils étaient accessibles, soyons honnêtes, honnêtement. Enfin, moi, il y a quand même pas mal de fois où je me suis accrochée à des gens simplement, je pense, parce que je pouvais pas les avoir et que j'étais tombée amoureuse de l'inaccessibilité plus que de la personne. Et je pense que cette question-là, il faut vraiment se la poser, de se dire est-ce que je me serais accrochée à cette personne dans tous les cas si m'avait donné quelque chose de différent? Si la réponse est non, honnêtement, accrochez-vous à ça et partez. Si la réponse est oui, c'est un peu plus compliqué, mais pour autant, il faut quand même s'aimer plus soi. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il faut s'accrocher à cette idée-là en tout cas. Et je me dis que après une bonne introspection et la tentative de communication claire avec les personnes concernées, si on arrive à avoir les réponses de ce qu'on a pu faire ou dire ou dégager qui a fait qu'on s'est retrouvé dans une relation comme ça, et la réponse de nous à nous aussi de pourquoi finalement on se contente de choses qui ne nous vont pas, je me dis qu'une fois qu'on a ces réponses, on est sûrement pas loin de régler le problème et de briser cette malédiction. Mais bon, comme vous l'aurez compris, moi je n'ai pas cette réponse, du coup je n'ai pas ces réponses-là. Toujours est-il que j'espère que mes déboires auront au moins servi à vous divertir. Et encore une fois, si quelqu'un se reconnaît et a envie de partager son expérience avec moi, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode du coup qui était supposé sortir aujourd'hui et qui est probablement un peu plus intéressant et instructif que juste moi qui raconte ma vie catastrophique. Voilà. Merci encore et à la semaine prochaine. Bye.